10 questions à, une émission de Fréquence Mistral en partenariat avec l'école de la deuxième chance des Alpes de Haute-Provence. Avec l'école de la deuxième chance, avec nos deux premiers jeunes, Sanjana et Edwige, nous recevons Monsieur Jean-Pierre Hubert. Jean-Pierre Hubert, vous êtes conférencier sur l'histoire de la conquête spatiale, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'à partir de 1963, où il y a eu un vol spatial américain, je suis tombé d'une façon passionnée dans la conquête spatiale, en me disant, j'avais travaillé comme jeune dessinateur industriel et comme stagiaire sur le réacteur du Concorde, et en me disant, après, ça sera les fusées. Et peut-être que l'avenir, nécessairement, l'aviation, oui, mais après, nécessairement, les fusées, aller sur la Lune, aller plus loin, aller explorer plus tard le système solaire, irons-nous vers les étoiles. Donc j'ai été un passionné de la technique. Je ne suis pas du tout un littéraire, mais je suis passionné de la technique.
Et vos conférences, vous les donnez où ?
Alors, mes conférences, j'ai démarré curieusement au ciné-photoclub d'une société dans laquelle je travaillais. J'étais un bon photographe et j'avais compilé beaucoup de diapositives personnelles au travers des salons de l'aéronautique et de l'espace. Et j'ai proposé de faire une conférence à la Thomson, au ciné-photoclub. Ça a été très apprécié, ça a été reconduit, ça a été pris après par différentes sociétés d'aéronautique, du spatial. Et petit à petit, j'ai donc 300 conférences derrière moi à ce jour et surtout pour la moitié auprès des jeunes, pour une question de partage, de leur faire prendre conscience de ce qu'est la conquête spatiale et leur futur, parce que c'est leur futur maintenant.
Enfin, Monsieur Hubert, avant de passer la parole à Edwige, vous êtes ex-membre de l'Aéroclub de France. Alors, qu'est-ce que l'Aéroclub de France ?
Alors, l'Aéroclub de France, c'est l'institution supérieure donc à Paris qui regroupe tout ce qui est de l'aviation et du spatial. Donc, c'est une très vieille institution qui a démarré dans les années 1900 avec pour le premier brevet de aviation Breguet, donc Louis Breguet. Et en l'occurrence, si vous voulez, moi-même, j'ai été recruté de par mes conférences par Gérard Felzer, qui a été longtemps le directeur de l'Aéroclub de France et qui est un ancien pilote sur A340 et qu'on voit souvent quand il y a des accidents pour présentation des rapports du BEA, Bureau d'enquête et accident.
Son nom nous parlait.
Bien sûr.
Alors je vais passer la parole à Edwige. Donc Edwige est la première des deux intervieweuses d'aujourd'hui pour l'école de la deuxième chance. Alors Edwige, à toi la parole.
Alors bonjour.
Bonjour.
Je vais vous poser plein de questions. Qui finance vos recherches ?
Alors, on ne peut pas dire précisément que ce sont des recherches. C'est-à-dire que je ne suis pas un scientifique. Je me suis arrêté au niveau d'ingénieur. Mais mes recherches ont consisté surtout pour beaucoup en de la documentation, d'être inscrit par exemple de par le passé à l'Aéroclub de France, d'être inscrit aussi auprès, il y a très longtemps, d'Albert Ducrot qui était le journaliste scientifique d'Air et Cosmos. Donc ensuite j'ai fait partie aussi de l'A3AF, mais maintenant j'ai près de 80 ans, j'ai un peu lâché tout ça parce que ma femme râle par un peu ma passion dévorante.
D'accord. Est-ce que vous croyez que l'humain va coloniser une planète ?
Absolument. Alors, ça dépend ce qu'on appelle par planète. Est-ce que la Lune est une planète, pour toi, à ton avis, ou pas ?
Non.
C'est très bien. Ta réponse est bonne. La Lune, c'est un satellite. C'est notre satellite naturel autour de notre Terre qui s'est formé à peu près en même temps que la Terre. Ça, je pourrais le réexpliquer. Si demain, vous êtes là à la conférence que je vais donner à 14h, ou alors il faudrait que je refasse une seconde conférence à l'école d'Océ. Les planètes, ça sera retour sur la Lune 2028, vraisemblablement. Pour aller sur Mars, ça sera 100 000 fois plus compliqué que d'aller sur la Lune. Et Mars, ça sera très difficile du point de vue colonisation. C'est le rêve d'Elon Musk, mais j'espère que ce n'est pas une chimère. Mais aller sur Mars pour faire de la recherche scientifique pendant 6 mois environ, puis revenir sur Terre, ça je veux bien. Faire comme Elon Musk, s'installer définitivement avec des bases, faire en sorte aussi peut-être de vivre où sur Mars, on ne sait pas, dans des tunnels de lave. Le problème sur Mars, ce sont les rayons cosmiques, ce sont les vents solaires, les particules de vents solaires, c'est ce qui touche notre organisme biologique. Donc ça, c'est compliqué. En plus, il y a les grandes tempêtes de sable à la surface de Mars. Donc Mars, ça sera une première étape, en espérant que ça soit jouable. Après, Dans la dernière partie de mes conférences, j'ai un petit sujet sur quelques diapositives avec les grands télescopes de Hubble et le nouveau, le JWST, donc dans l'infrarouge, Hubble étant dans le visible. Et ça, c'est pour dire, irons-nous vers les étoiles ? Comme font éventuellement, s'ils existent, donc ces braves ITI qui viennent nous visiter avec leur soucoupe volante. Mais là, il faudrait découvrir le secret de la manière avec laquelle ils puissent voyager dans l'univers et dans le cosmos.
D'accord. Sur quel sujet préférez-vous faire des conférences ?
Alors, c'est une bonne question, tiens, ça. Je n'ai pas comme passion que la conquête spatiale. J'ai fait énormément d'alpinisme et je suis très intéressé par la géologie, par les pierres, par les roches, y compris maintenant par l'aspect martien. Parce que les robots qui sont depuis plus de 10 ans maintenant à la surface de Mars découvrent des choses intéressantes. Et sur Mars, la géologie peut être très intéressante par rapport au fait de dire on est certain qu'il y a eu de l'eau sur donc, la planète Mars. Maintenant, est-ce qu'il y a eu une vie prébiotique qui s'est installée pendant le milliard d'années où Mars était couvert d'eau, totalement d'eau, avec des océans ? Tout ça, c'est une grande énigme. Donc, les civilisations anciennes aussi m'intéressent beaucoup. Parce qu'au-delà de nos civilisations qu'on considère comme étant les plus anciennes, donc l'Égypte, environ 4200 ans en arrière, on sait maintenant qu'il y a eu Boklu Tepe en Turquie ou des sites donc pré-Maya en Amérique latine qui datent peut-être de 10-12 000 ans. Qu'est-ce qu'il en a été de ces civilisations très anciennes et peut-être aussi avec un apport technologique qu'on ne connaît pas, qu'on a perdu ? Je ne sais pas. Mais il n'y a pas que la conquête spatiale qui m'intéresse.
D'accord. Et du coup, j'avais une autre question, mais qui n'est pas sur ma feuille. Est-ce que vous pensez qu'on est seuls êtres humains ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre espèce de vie au-delà de...
Alors, la question est très riche par rapport à ta formulation, jeune femme. C'est-à-dire que, qu'est-ce que la vie ? C'est une immense énigme. Nous ne savons pas ce qu'est la vie. Comment est-ce qu'elle a réellement démarré ? Où ça ? Dans l'univers ? Sur Terre ? Il est possible que ce soit des astéroïdes ou des comètes qui apportaient de l'eau sur Terre, que ce soit aussi des acides aminés, que les météorites aient apporté aussi des composés organiques qui ont peut-être pu commencer à faire développer la vie dans les océans. Mais d'où ça vient à l'origine ? Est-ce qu'il y a un grand créateur quelque part qui fait en sorte que la vie après a pu se développer chez nous de la façon dont on la connaît, où je vous rencontre par exemple ? Et d'un autre côté, quel a été le point de départ ? Alors le JWST, le James Webb Space Telescope, qui est dans l'infrarouge, va approcher beaucoup du Big Bang. Mais le point de départ, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ? Comment est-ce qu'on peut éventuellement dire qu'il y a des civilisations extraterrestres sur d'autres galaxies, sur d'autres univers ? Est-ce qu'on peut passer d'un univers à l'autre facilement ? Tout ça, ce sont des grands mystères. Einstein a dit qu'on n'aurait peut-être pas le cerveau suffisamment puissant pour comprendre tout ça.
D'accord. Qu'est-ce que vous espérez transmettre aux jeunes ?
Alors, ce que j'espère transmettre aux jeunes... Pour les personnes qui ont déjà écouté mes conférences, il y a, et je ne veux pas du tout avoir les chevilles qui enflent, hein, ce n'est pas du tout mon propos, après 80 ans, bomber le torse, c'est plus comme à 20 ans. Ce que j'espère transmettre aux jeunes, et c'est ce qu'on me dit bien souvent à la fin de mes conférences, « Monsieur, vous nous avez passionnés ». Donc, mon côté patient, oui, pour la conquête spatiale, pour ce qui vous attend, vous les jeunes, hein, par rapport aux avancées qu'il y a maintenant dans ce domaine spatial. Parce qu'on a couru après la Lune. Après la Lune, on a continué à tourner en orbite autour de la Terre. Et il y a un de nos spationautes qui s'appelait Patrick Baudry qui a beaucoup râlé à ce niveau-là en disant « mais il faudrait qu'on aille plus loin ». Wernher von Braun avait quitté la porte de la NASA en 1977 en claquant la porte parce qu'il voulait engager tout de suite la course à Mars. Et quelque part, ce côté patient et d'échange, pour vous, il est important pour votre futur. Votre vie passera nécessairement par le spatial. Ce qu'il faut espérer, c'est que ce ne soit pas sur un domaine restreint d'une élite.
D'accord. Comment des pays différents arrivent à se mettre ensemble pour travailler sur la conquête de l'espace ?
Mais vous n'avez que des bonnes questions. En fait, est-ce que tu as idée comment est-ce qu'a pu démarrer une certaine forme de coopération entre États qui se faisaient la guerre froide, comme on dit, pour aller à la course à la Lune. Est-ce que tu as idée ou pas du tout ?
Pas du tout.
Alors, c'est-à-dire qu'après la course à la Lune, que les Américains ont gagné, comme tout le monde le sait, que les Russes ont perdu aussi, mais ça, je pourrais expliquer plus en détail, mais on n'aura pas le temps. Donc, faute d'une grosse fusée puissante qui aura fonctionné, tout ça. Mais en l'occurrence, les Soviétiques, après, ont été les premiers, ils ont toujours été les premiers pour les grandes premières spatiales. Malheureusement, ils ont raté la course à la Lune. Et après, ils ont redémarré sur un domaine très spécifique de faire les premières stations orbitales, et avec beaucoup de solutions de continuité, donc pour étudier le comportement de l'homme dans l'espace, avoir des présences de longue durée. Les Américains n'ont fait qu'une seule station orbitale qui s'appelait le Skylab, qui était beaucoup plus grosse, énorme, qu'on a appelé le château de l'espace. Mais en l'occurrence, l'espace peut apporter dans différents domaines énormément de choses, que ce soit dans le domaine de la biologie, de la recherche, de l'astronomie, de l'astrophysique, et puis plus tard, pour peut-être notre sauvegarde de notre humanité.
D'accord. Et dernière question pour moi, quel est votre parcours scolaire ?
Alors c'est un peu compliqué parce que je vais remonter loin en arrière. J'ai perdu mon papa lorsque j'avais 2 mois. Il s'était dans un accident. Ma mère avait ma sœur qui avait près de 2 ans. Donc on a eu des difficultés, comme on dit, pour joindre les deux bouts dans la famille. Et je n'ai pas pu faire toutes les études peut-être que j'aurais pu espérer, ou est-ce que j'en aurais été capable d'aller vraiment dans des cycles supérieurs et puis de devenir comme Thomas Pesquet, par exemple. Donc en fonction de ça, j'ai été passionné de technique. J'ai fait une école de dessin industriel très tôt, très jeune. Au lieu d'aller taper dans le ballon le jeudi après-midi, j'allais en cours de dessin industriel. C'est pour ça que j'ai travaillé sur le réacteur du Concorde à l'époque, avant qu'il décolle en mars 69. Et puis ensuite, j'ai travaillé aussi sur les premiers injecteurs d'une fusée qui n'a pas bien marché, malheureusement. C'était la fusée Europa, Europa 1, Europa 2, avant que, sous la pression du président Pompidou et ensuite de Giscard d'Estaing, qu'on relance le programme Ariane avec le succès qu'on connaît. Donc, je me suis arrêté à un niveau d'ingénieur avec beaucoup de cours du soir et avec cette chance que j'ai eu de faire des cours du soir qui n'existent malheureusement quasiment plus maintenant, sauf heureusement, avec vous, par exemple, où j'ai donné déjà une petite conférence à l'école d'Odyssée au mois de mai, auprès de M. Frédéric Pellegrini. Et pour vous, j'ai fait ça très volontiers, gracieusement. Parce que, quelque part, j'ai beaucoup apprécié votre démarche à cette école d'Odyssée, avec des difficultés ou parentales, sociétales, ou des difficultés scolaires, d'avoir la volonté de vous relancer sur un cycle d'un an, 3 ans, et avec des formations à la clé.
D'accord, ben merci beaucoup.
Je vous en prie.
Alors c'est au tour de Sanjana de poser les questions. Sanjana.
Bonjour.
Un petit peu plus fort, s'il te plaît. Un petit peu plus fort.
D'accord. Avez-vous d'autres passions ?
Alors, je les ai un petit peu évoqués tout à l'heure. Oui, effectivement, comme je l'ai dit, il n'y a pas que la conquête spatiale. Tout ce qui est technique m'intéresse. Je ne suis pas du tout un littéraire, comme je l'ai un petit peu dit aussi tout à l'heure. Mais au-delà de la technique, j'ai fait beaucoup d'alpinisme, donc et la géologie, tout l'aspect du volcanisme, tous les bouquins de Arun Taziev sur les volcans, je les ai lus. Donc, je les ai d'ailleurs. Cousteau m'a beaucoup intéressé aussi, parce qu'il y a une sorte de similitude entre ce que voulait faire Cousteau, la conquête sous la mer, et puis l'espace. Cousteau, malheureusement, n'a pas pu aboutir, il n'a pas eu les financements qu'il aurait voulu. Les maisons sous la mer, il y en a eu 2, et en l'occurrence, c'est plus difficile presque d'avoir des maisons sous la mer que d'être dans l'espace, parce qu'il y a la corrosion, il y a le fait de l'oxygénation, si on veut descendre profond dans la mer, c'est pas facile, mais tous ces sujets-là m'ont beaucoup intéressé, au-delà simplement de la conquête spatiale.
D'accord. Est-ce qu'il y a des conséquences de votre passion sur votre vie professionnelle ?
Excuse-moi, jeune fille, il faut que tu parles un peu plus fort, je n'ai pas entendu.
Pardon. Est-ce qu'il y a des conséquences de votre passion sur votre vie personnelle ?
Ma femme n'est pas là, heureusement. Oui, parce que Quand on a une passion, tu sais, bien souvent, c'est dévorant. Que ce soit pour des collectionneurs, alors moi aussi j'ai beaucoup de maquettes, beaucoup d'avions, j'ai beaucoup de documents, j'étais inscrit à beaucoup de revues techniques, scientifiques, donc j'ai besoin, j'ai fait une réhausse à la maison et j'ai toute une pièce qui est destinée pour moi, pour toute mon activité de conférencier. Alors ma femme râle un peu parce que quelque part, dans un ménage, il faut savoir partager aussi, autrement on divorce.
D'accord. Pensez-vous que l'humanité ferait mieux que sur une autre planète?
Ça aussi, c'est une question qui est très riche. C'est-à-dire que on voit malheureusement que sur notre planète, l'homme n'est pas spécialement sage et raisonnable. Quand on voit actuellement, présentement, que toute guerre, destruction, animosité entre les humains, j'espère que si on colonise, alors la Lune, on va vraisemblablement la coloniser assez rapidement, retour sur la Lune 2028 et après installation permanente à partir de 2035 pour installer sur la face cachée par exemple des grands radiotélescopes, sur la face visible et près du pôle sud parce qu'on sait qu'il y a de la glace, donc il faut de l'eau pour pouvoir survivre aussi dans ces conditions-là lunaires. Et il y aura une exploitation minière aussi de la Lune, peut-être pour aussi prendre ce qu'on appelle de l'hélium-3 qu'on mettrait dans ITER, la centrale à fusion thermonucléaire contrôlée qui se développe ici, donc sur Cadarache. Sur une première phase, oui, mais il faut espérer que quelque part, l'homme ne va pas transporter toute ses bêtises ou sa médiocrité, parce que l'homme peut être autant génial par certains côtés, il peut être très très désagréable, méchant, médiocre par ailleurs. Donc si on va sur Mars après, si Elon Musk veut faire des grandes colonisations avec des départs dans les années 2040 peut-être, de 1000 colons, plusieurs fois dans l'année, si vraiment on installe une vraie vie sur Mars, il faudra espérer que l'homme soit un peu plus sage que maintenant, parce que ça, c'est quelque chose de très difficile pour notre planète et pour des gens comme moi qui ont un certain esprit d'éthique personnelle pour dire moi, je suis généreux. Vous voyez, ce que je fais auprès de vous, c'est tout à fait gracieux par rapport au fait de vous faire profiter de mes connaissances. Et je voudrais bien que l'homme puisse en avoir un peu plus conscience d'une façon générale.
Est-ce qu'il n'y a que des scientifiques qui travaillent sur la conquête spatiale?
Alors, oui et non. Effectivement, il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent sur la conquête spatiale. Et surtout, je dirais même plus maintenant qu'à l'époque du programme Apollo, où c'était une véritable course pour savoir qui des deux nations, donc communistes ou nations de libre-échange économique, débarqueraient sur la Lune. Donc, il n'y a pas que des scientifiques, effectivement, comme je viens de l'évoquer. Il y a tous les industriels qui sont par derrière, parce que quelque part, maintenant, les scientifiques sont dans la station orbitale ISS pour faire en sorte de préparer l'avenir, à beaucoup de points de vue, sur les vols de longue durée. Mars, ça sera 3 ans aller-retour. Si on y vit là-bas sur place, il faut faire adapter notre condition physiologique à ces conditions spatiales qui sont très difficiles. Donc, et par contre, après, il y a tous les industriels qui fabriquent les engins qui seront capables d'aller sur Mars. Il y a les moyens d'y accéder, après il y a les moyens de se poser, après il y a les habitats, après il y a les moyens, les rovers pour se déplacer, mais pas des petits rovers comme là on a, ou même Perseverance ou Curiosity qui sont gros comme une petite R5 par exemple. Après ça sera des rovers plus importants pour être capables d'emmener des hommes. Donc il y a tout un système d'ingénierie, comme on dit, et d'industriels qui travaillent par derrière les scientifiques. Donc, c'est toute une chaîne, là aussi.
D'accord. Quels sont les effets sur la santé physique des personnes qui vont dans l'espace?
Alors, l'aspect de la santé, au départ, il a été un peu méconnu ou pas pris en compte. Quand les vols spatiaux étaient de très courte durée, de quelques jours, bon, il n'y avait pas d'incidence. Après, quand les Soviétiques ont commencé à faire des vols de longue durée à bord de leur station Salyut, il y en a eu 7, là, on s'est inquiété de savoir quelle était l'influence, comme je disais tout à l'heure, des rayons cosmiques et du vent solaire, des particules très énergétiques qui peuvent, comme les rayons cosmiques, traverser totalement le corps des astronautes. Et une visualisation de ces grandes particules cosmiques qui traversaient le corps des astronautes étaient des flashs lumineux, donc apportés à l'œil, ou quelque part il y avait une interaction avec l'œil par rapport à ces particules. Donc au départ, ils n'ont pas compris pourquoi ils voyaient des flashs comme ça dans l'espace. Alors après, ça a été pris en compte. Si on doit aller sur Mars, par exemple, un voyage aller-retour de près de 3 ans, on sera obligé de faire à l'intérieur du vaisseau une sorte de cabine un peu spéciale qui sera certainement entourée d'eau pour absorber tous ces rayonnements, parce que s'il y a une grande éruption solaire, ça peut être très dangereux pour l'organisme humain, pour notre métabolisme, et autant pour vous les filles que pour nous les hommes, aussi pour nos générations futures quand on fera des bébés dans l'espace. Ça aussi, c'est un grand questionnement.
D'accord. Est-ce qu'il y a des effets sur l'esprit des personnes qui vont dans l'espace ?
Décidément, vous avez des questions des plus pertinentes. Et la réponse est oui. C'est-à-dire que certains des astronautes qui sont allés sur la Lune sont revenus avec des troubles psychologiques. La NASA a fait une très grosse bêtise à l'époque, c'est de ne pas avoir assuré un suivi psychologique de ces personnes qui avaient débarqué sur la Lune, qui ont été montées au firmament pendant des mois, même quelquefois des années, qui ont circulé partout de par le monde, qui ont été invitées, comme on dit, en grande pompe. Et quelque part, après, ils ont été un peu lâchés dans la nature comme ça. Donc certains sont tombés dans le mysticisme. James Irwin, par exemple, sur un des derniers vols, il est rentré dans le mysticisme, comme ça, religieux. Alan Bean, lui, ça a été plus sympa, il est devenu peintre spatial, il a fait beaucoup de peintures sur la Lune. Donc, les Soviétiques ont été plus prudents à ce niveau-là. Même en étant prudents avec tout l'entraînement qu'ils ont, les astronautes, il y a eu un cosmonaute russe qui aborde une station, Salyut, ou Mir, je ne sais plus si Salyut ou Mir, qui était obligé d'être redescendu au bout de 3 semaines, malgré toutes les entraînements qu'ils avaient eus. Il n'a pas tenu psychologiquement le coup d'être confiné comme ça, dans une station qui était malgré tout assez grande, mais bon, on ne peut pas ouvrir la porte puis aller dans son jardin ou prendre la canne à pêche et puis d'aller faire un tour pour pêcher. Donc cet aspect de la psychologie à long terme pour des voyages longs, oui, ça c'est quelque chose qui commence à être pris en compte. Les Américains ont récemment pris en compte, je ne sais pas si ça vous parle, une lunette IOPS. C'est-à-dire que c'est une lunette qui permet d'avoir un peu comme du virtuel, mais c'est avec un côté applicatif médical, de la luminothérapie, des sons pour détendre, déstresser donc les personnes. Ça existe en hôpitaux actuellement. Hein. Et la NASA a pris cet engin-là pour essayer aussi de voir quelle importance ça aurait de déstresser les astronautes quand ils reviendraient après des vols de longue durée.
Est-ce que vous trouvez encore que la Terre est belle ?
Je me doutais un peu que vous m'auriez posé une telle question. C'est le secret que je vous avais dit tout à l'heure. Je vous apportais quelque chose. Regardez ça. Est-ce que tu veux la lire ?
Cette... Je peux la lire au micro parce qu'il faut que les auditeurs l'entendent.
Devant la beauté de notre Terre si fragile, et peut-être unique dans l'univers... Si seulement l'homme pouvait avoir un peu d'altruisme pour la sauvegarder.
Donc c'est quelque chose qui répond pour moi aussi à une question d'éthique personnelle, de dire on a une Terre qui est magnifique. Si seulement tout le monde pouvait aller en orbite, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Parce que quand on voit de par l'espace, à environ à 400 km, comme l'ISS, comme a pris Thomas Pesquet sur 3 beaux ouvrages qu'il a créés, avec près de 80 000 photos qui sont dans ces 3 ouvrages, quand on voit notre Terre aussi belle, pourquoi la massacrer comme on la massacre actuellement, de par le pillage économique et industriel qu'on fait, de par notre bêtise de toutes nos guerres, de toutes nos destructions? Ça, c'est quand même véritablement un gros problème, un enjeu aussi pour vous, pour les jeunes plus tard. Il y a un autre aspect qui est à prendre en compte, c'est ce qu'avait dit le président Chirac en 2002 au congrès de Johannesburg, où quelque part, il y a le feu à la maison, mais personne ne s'en préoccupe. Ça a été une première remarque de Chirac qui a été longtemps connue et prise en compte. Il y en a une seconde qui a été moins connue, c'est de dire que si nous n'y prenons pas garde, pour vous les jeunes maintenant, pour vos générations futures, eh bien, ça sera peut-être un crime de l'humanité contre la vie.
Eh bien, il me reste à féliciter Edwige et Sanjana pour ces magnifiques questions que vous avez trouvées, Monsieur Hubert, très pertinentes, hein, je crois.
Absolument. Oui. Vraiment, c'est un bonheur pour moi, justement, d'avoir des échanges comme ça auprès des jeunes pour non seulement leur communiquer ma passion de la technique, de l'espace, mais aussi un sens profond qui les attend. Leur vie, elle est devant eux. Ces jeunes femmes auront des enfants, des petits-enfants. Mais si notre futur, on le gâche irrémédiablement par un manque de prise de conscience, et là j'en veux beaucoup à nos hommes politiques qui n'ont rien compris depuis des années, au-delà des scientifiques qui alertent, et pareil pour les industriels, eh ben, on court un peu à un désastre.
Monsieur Jean-Pierre Hubert, merci infiniment d'avoir participé à ce plateau, et merci encore à Edwige et Sanjana pour cette formidable session.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci.
Merci.